Bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, votre magazine des deux rives de notre Méditerranée. C'est un numéro spécial que nous vous proposons aujourd'hui. Il est entièrement consacré à la 24e conférence de la COPEAM qui se tenait en fin de semaine dernière à Beyrouth, au Liban. La COPEAM est un organisme qui regroupe les médias de service public de Méditerranée. En 2016, cette conférence avait lieu à Ajaccio. Le thème de cette édition 2017 était « Narration en Méditerranée, complexité, réponse des médias et opinion publique ». Pour le Cantara d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du Liban. Dans ce petit pays, 18 religions cohabitent et 2 millions de réfugiés, soit la moitié de la population, y vivent. Mais avant de partir au Liban, nous vous rappelons que Cantara est une coproduction.
Algérien 3, Linda Boadma, France Bleu, RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, chaîne Interaba, Nadir Abelkhoutout et Mohamed Choui, Radio Tunis, chaîne internationale Maya Dassili, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguid, Radio Extérieure d'Espagne, Emmanuel Zahr.
Le programme musical sera totalement libanais. Nous débutons avec le groupe Hello Psikalepo et son titre Tayaba Bouya. ما بقول التوبة يا ابويا توبة 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 يا ابويا C'était le groupe libanais Psikalepo. À tout seigneur, tout honneur, nous débutons ce Cantara spécial Liban avec le président de la COPEAM, Talal El Magdessi. Le président de Télé-Liban accueillait donc tous les participants à cette conférence dans son pays et sa ville, Beyrouth.
Je suis fier d'être parmi mes amis, mes collègues, les partenaires de la COPEAM. Les recevoir chez nous comme... Au Liban, c'est comme notre nature libanaise accueillante, comme si on les reçoit chez soi. Alors, on a fait tout notre possible d'être à la hauteur et de montrer au monde la beauté que le bon Dieu a béni ce pays avec. En plus, la punition que le bon Dieu a fait avec les politiciens de ce pays.
Alors, président, on va parler du Liban, parce qu'on n'en parle pas assez du Liban, et le Liban, c'est quand même un symbole, lieu stratégique, la Méditerranée à ses pieds, mais aussi beaucoup de soucis. Et c'est vrai que l'on présente le Liban, c'est un beau pays, vous l'avez dit, c'est un pays magnifique, avec un peuple magnifique, mais qui a des voisins qui lui font beaucoup de misère depuis de nombreuses décennies. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est d'ouvrir les bras aux autres.
Le Liban était toujours le pays qui a ouvert ses bras à toute personne persécutée, à toute personne qui cherchait la liberté. Géographiquement, malheureusement, le Liban est situé entre deux pays. Un pays que nous, les Libanais, on ne reconnaît pas, et c'est Israël. Un autre pays qui nous n'a jamais reconnu le Liban, et c'est la Syrie. Alors ce n'est pas une situation géographique très encourageante pour l'avenir. Mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, si on arrive à tracer nos frontières avec nos voisins, que ce soit amis ou ennemis, c'est la meilleure des solutions pour l'avenir du pays et des deux côtés.
Alors c'est le premier pays du monde qui a autant subi la migration avec les Palestiniens il y a quelques décennies et maintenant avec les réfugiés syriens. Je crois qu'on a dépassé le million de réfugiés venant de ces pays-là. Alors comment le Liban réussit à intégrer cette population et à vivre avec?
Actuellement, le Liban a plus que 1 750 000 Syriens. on a plus que 650 000 Palestiniens. On a à peu près 150 000 Irakiens. Alors, il y a des réfugiés de tout le monde. Maintenant, pourquoi on compte seulement 1 200 000 Syriens? Parce qu'il y a 1 200 000 qui reçoivent des aides de l'UNRWA ou des Nations Unies ou des dents. Mais il y a des gens, des Syriens aisés, qui sont venus au Liban, qui ont loué des appartements ou des maisons, ils ont leurs enfants dans les écoles. Et cette année, on va avoir beaucoup plus de nouveau-nés de femmes syriennes au Liban que de Libanaises. C'est dangereux. En plus, il y a un élément essentiel qu'on est en train d'envisager aujourd'hui. Qu'une bonne partie des réfugiés syriens vivent au Liban actuellement beaucoup mieux qu'ils vivaient chez eux en Syrie. Et j'ai un gardien dans mon immeuble parce qu'on a tous ouvert nos maisons, on a ouvert toutes les possibilités pour les accueillir. On n'a pas fait des camps comme en Turquie ou en Jordanie. Les Syriens vivent dans chaque maison, dans chaque immeuble, dans chaque rue, dans chaque village et partout. J'ai un gardien, ça fait depuis 5 ans et demi que je l'ai. Il a déjà fait 5 enfants pendant les 5 années. Alors je lui ai demandé, il y a 2 jours, « Abdallah, tu es de quelle région en Syrie ?» Il m'a dit, « Je suis de Hama. » J'ai dit, « Est-ce qu'il y a toujours des accrochages à Hama ?» Il m'a dit, « Non, là-bas on est très 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 bien. » J'ai dit, « Et quand est-ce que vous rentrez ?» Il m'a dit, « Je ne veux plus rentrer, je vis beaucoup mieux ici. » Alors ça, c'est un problème à envisager. Un grand problème à l'avenir.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des réfugiés, disons, c'est une émigration. Les gens ne veulent pas rentrer à leur pays.
Il y a les deux. Il y a des gens qui ont été obligés de quitter. Et il y a des gens qui ont été poussés à quitter. Parce que la guerre en Syrie, ce n'est pas une guerre militaire seulement. C'est une guerre démographique. Une fois, on a demandé à une personne qui gère la politique de la Syrie, que vous êtes en train de perdre beaucoup de terrain. La réponse était, nous, on ne cherche pas la géographie. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la démographie. Alors, il y a des éléments qu'on doit, nous, à la COPEAM, discuter ouvertement. On doit avoir le courage de dire les vérités. Il faut que le monde sache exactement la situation exacte et crédible sans ni make-up, comment on dit make-up, maquillage, et sans être négatif. Ça, c'est notre devoir. Il faut refléter l'image vraie. De tout temps, on avait toujours entre 300 et 400 000 Syriens au Liban qui travaillaient. C'est la main-d'œuvre. Ils étaient toujours les bienvenus. Nos frontières étaient ouvertes. Un Syrien pourrait entrer au Liban et sortir, entrer et sortir, sans aucun, avec sa carte d'identité. C'est comme l'Europe. Mais maintenant, à un certain moment, ça a dépassé tous nos moyens. Alors là, on a commencé à mettre un peu de limites, mais les frontières sont ouvertes, les frontières ne sont pas contrôlées, les frontières actuellement ni contrôlées ni contrôlables. Parce qu'on n'a pas de frontière tracée entre le Liban et la Syrie définitive. Et ça, c'est une nécessité à faire après ce qui s'est passé. Pour l'intérêt de la Syrie, parce que les Syriens plaignent qu'il y a beaucoup de Libanais qui font le bordel chez eux, et il y a beaucoup de Libanais qui disent que les Syriens font bordel chez nous. Alors là, il faut tracer ces frontières et mettre limite à cet échange illimité.
C'était le président de la COPEAM, Talal El Magdessi. Deuxième pause musicale avec Yasmine Hamdam qui nous chante Beyrouth.
شرب العرا لعب الورا خيل السبع صيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبع صيد الحمام رسم البرود لبس الغوار شم الهوى أكل شاغل عقول سكان بيروت بيروت زهرة من غير أغنى بيروت في عمل ما في أمل برك الجمل ركب النحس ما في عمل ما في أمل برك الجمل ركب النحس تجار برود الغندرة والفنجرة والبوارة كتر البتر هالك بيروت
Beyrouth chanté par Yasmine Hamdam. Nous continuons ce Kantara spécial Liban, spécial Copéam, avec notre deuxième invitée qui est la directrice de Radio Liban, Rita Al-Roumi. Lors de l'ouverture de la conférence, le ministre libanais de la communication, Melhem Riachi, dans son discours plein d'humanisme, a parlé de son pays comme un exemple à suivre pour l'humanité, avec 18 confessions religieuses qui vivent ensemble, un carrefour d'idées, de religions, de nationalités. Alors qu'en pense Rita Al-Roumi ?
C'est vrai, notre jeune ministre, son Excellence Monsieur Riachi, a insisté sur ce que Liban est un message, comme l'a déjà dit Jean-Paul II. Alors, un message comment ? Parce que c'est un mosaïque de communautés. On a 17 communautés qui vivent dans ce pays, dans ce très petit pays. Alors et ils s'entendent bien que on a eu des problèmes avant, mais maintenant il n'y a aucun pays où il n'y a pas de problème. Mais on continue à vivre, on s'aime, on se voit tous les jours. On est par exemple à la Radio Liban de toutes les régions du pays sont là à la Radio Liban. Ils représentent tout le Liban. Ils sont là. On s'entend très bien, on travaille très bien, on fait tout pour améliorer notre radio pour avancer. Il faut dire que Monsieur le ministre Riachi a fait des pas géants dans la progression de la radio. Maintenant, nous sommes on a notre website, vous pouvez nous écouter sur le online. Et notre ministre, vraiment, c'est un jeune. On est très fiers de lui. Il faut dire que lui, il a fait quelque chose de très important. Il a pu unir les chrétiens qui à certains moments étaient un peu une partie contre l'autre. Alors il a fait le pas géant de réunir les chrétiens, et ce que notre ministre vient de dire dans la conférence, c'est que il dit que les chrétiens libanais peuvent donner une belle image des musulmans du monde, parce qu'on est en train de vivre avec nos frères les musulmans dans ce pays, on s'entend très bien et on a une très belle image de l'islam dans notre pays. Alors il faut faire de sorte à répandre cette image de l'islam dans le monde entier. Alors nous avons, en tant que chrétiens dans ce pays, un rôle très important, c'est donner l'image positive de cette religion qui prêche la paix. Alors c'est à nous de donner cette image positive de l'islam.
Alors lorsqu'on définit le Liban, on dit souvent que le Liban est un peuple merveilleux, qui est un pays merveilleux, mais qui souffre de ses voisins qui sont un peu turbulents. On parle normalement de l'Israël ou de la Syrie.
C'est vrai, on souffre. On souffre parce qu'avant tout, on a les Israéliens, les sionistes sont des ennemis depuis tout temps. Et ils ont envahi notre patrie pour un certain temps. Et même aujourd'hui, c'est pour ça qu'on continue à résister contre les Israéliens. Il y a les réfugiés syriens qui ont aussi un nombre qui dépasse les 1,5 million de réfugiés syriens qui sont là chez nous. Ils sont en train de vivre avec nous. Et il y a aussi les Palestiniens qui sont là depuis très très longtemps, depuis les quarantaines, les années 40. Alors notre pays souffre parce qu'il supporte un fardeau très, très lourd. Et pour lui, c'est vraiment très difficile de porter ce fardeau si les pays ne viennent pas à son aide.
Alors, comme disait le ministre, c'est un fardeau, mais ça peut être aussi une richesse. Toutes ces communautés qui vivent ensemble, ici à Beyrouth et au Liban, ça peut être une richesse. C'est aussi votre avis ?
Déjà, la richesse existe dans les Libanais eux-mêmes, parce qu'on a 17 communautés. Alors, on vit ensemble, plusieurs qui vivent ensemble. Ici, on a déjà cette richesse, on a ce mosaïque de communautés qui fait que le Liban est riche et qui peut donner un message au monde entier que les gens peuvent exister ensemble et peuvent avoir de bons liens ensemble. On n'avait pas besoin de tous ces réfugiés pour confirmer cette théorie.
Lina.
Alors, vous, au Liban, vous vivez vraiment 17 communautés, vous cohabitez. Est-ce que chacun est là, on le voit dans sa communauté, ou vous êtes un peu la laïcité qui règne?
Non, chacun tient à sa religion ici. Par exemple, on va donner un exemple. Par exemple, très bientôt va commencer le mois de Ramadan. Alors, mes collègues, mes amis musulmans, ils sont en train de vivre les traditions de Ramadan. Et moi, en tant que chrétienne, j'ai tellement d'amis qui sont musulmans, alors je vis leur joie de vivre Ramadan. Il y a les dîners, il y a les rencontres de Ramadan. Alors moi, pour moi, ça me fait très grand plaisir de vivre ces traditions avec eux. En contrepartie, quand il y a par exemple Noël chez les chrétiens, tu vois que nos frères, les musulmans, viennent visiter les chrétiens et jouir de cette occasion qui est vraiment très belle, qui est source de joie. Alors tu vois que tout le monde pratique sa religion, tout le monde sans exception, et on est très content de participer, de participer notre joie avec nos frères.
Oui, je comprends très bien, puisque comme chez nous en Égypte, on cohabite ensemble, et c'est vrai, moi j'ai toujours cette idée-là que quand c'est Noël, les musulmans et les chrétiens sont ensemble, et quand c'est Ramadan, vraiment tout le pays célèbre, quoi.
Oui, exactement, exactement, comme chez vous en Égypte, mais peut-être ici, peut-être plus, parce que les chrétiens font presque la moitié de la population. Alors il y a ce mixage entre
clair.
Un vrai mixage entre tout le monde ici.
C'était Rita Alroumi, la responsable des programmes de Radio Liban. Le groupe libanais maintenant, Kinématique, avec Anna Baer.
Kantara, spécial Liban.
Kantara, spécial Liban. Notre invité suivant est un diplomate. Il s'agit de l'ambassadeur du Maroc à Beyrouth. Il est là en place depuis quelques mois. Il est au micro de Nadira Belroutout.
Merci, monsieur Si Mohamed Green, de répondre à notre invitation. Vous êtes l'ambassadeur du Maroc au Liban. Est-ce qu'il y a des similitudes, par exemple, entre le Maroc et au Liban qu'on pourrait narrer dans cette émission Kantara ?
Parler des relations et des similitudes entre le Maroc et le Liban, ça nous renverra très loin dans l'histoire du temps des Phéniciens qui avaient quitté la ville de Sor pour aller s'installer en premier lieu à Tunis. Et puis à partir de ce qui est appelé maintenant Tunisie, ils sont partis sur la côte atlantique pour arriver au Maroc. Sans parler des échanges entre Marocains et Maghrébins de manière générale et le Liban, il faut rappeler que les plus grandes familles de Beyrouth, je ne citerai pas de noms, mais quand même il faut citer des noms, les Itani, les Tabara, les Wazan, les Yamout, sont d'origine maghrébine et plus particulièrement marocaine, comme il y a des familles d'origine libanaise qui sont des grandes familles marocaines. Mais le plus important pour nous, c'est en ces temps qui courent, et où le discours du rejet de l'autre est devenu dominant. Qu'est-ce qui rapproche ou qu'est-ce qui fait la similitude entre le Maroc et le Liban? C'est un peu cette tradition de vivre ensemble dans la différence. Le Maroc a une longue expérience de coexistence judéo-musulmane, mais le Liban, c'est un exemple et un modèle de cohabitation, de complémentarité entre différentes communautés qui pourrait, sans aucune exagération, être un exemple pour l'humanité. C'est même, je l'ai dit à plusieurs responsables libanais ici, c'est même un patrimoine universel immatériel de l'humanité. De voir 19 communautés vivre ensemble et chacune pratiquant ses rites, ses traditions dans le cadre d'une unité, c'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qu'on ne peut qu'espérer se généraliser à travers le monde. Imaginez, j'étais à la fête nationale du Liban. Et comme j'étais un nouveau ambassadeur, donc je me suis présenté à différentes personnes. J'ai vu des catholiques, des orthodoxes, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des protestants, des maronites, etc. Avant la cérémonie officielle, et au moment du démarrage, tous ces gens-là se sont levés pour chanter le même hymne national, pour saluer le même drapeau. C'est quelque chose de fantastique, de beau. C'est ce que nous avons vécu, notre génération, au Maroc. Et c'est ce que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, essaye de faire développer dans notre pays, vivre avec l'autre. Et vous savez, cette manière...
Mais actuellement, il y a des défis, hein, on dirait même, qui risquent d'entacher cette art de vivre ensemble. On l'a vu, par exemple, en Égypte, avec les attentats qui se sont perpétrés contre la communauté chrétienne.
Vous savez, tout à l'heure, monsieur le ministre de la Communication du Liban l'a si bien dit. Si sur la robe d'une mariée, il y a une petite tache d'encre, on ne voit que la tache d'encre, alors que toute la robe est blanche. C'est vrai que dans notre région, il y a plusieurs taches, il n'y a pas qu'une seule, et parfois grande. Mais quand même, on peut dire que le blanc existe, et qu'il y a quand même des millions, des dizaines de millions de gens qui vivent dans notre région en toute intelligence et en toute complémentarité. Mais c'est vrai aussi qu'il y a la culture de la haine qui revient en force. Donc, il y a la responsabilité de toutes les communautés au niveau du sud de cette Méditerranée. Il y a la responsabilité de nos intellectuels. Mais je pense que lutter contre la culture de la haine, c'est un devoir de tous. Et je me demande, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Organisation des Nations Unies, dont un des principaux objectifs est de maintenir la paix dans le monde, et nous savons que ce qui met les germes de la destruction de la paix dans le monde, c'est la culture de la haine. Il faudrait qu'il y ait des instances qui puissent travailler sur cette question, interdire les médias qui nous viennent d'en haut, du ciel, nous apporter ce venin qui est la haine, la stigmatisation de l'autre. Il faudrait que toute l'humanité se mobilise pour cela. Et je pense, d'après mon expérience de quelques mois au Liban, que les humains ont tellement de choses en commun qu'ils peuvent transcender les différences, et que ces différences peuvent devenir une source d'enrichissement dans le cadre d'une complémentarité et d'un pluralisme novateur et d'un pluralisme créatif, au lieu de s'enfermer dans une culture du rejet de l'autre. Et sachez que l'autre, on ne sait pas où est-ce qu'il se termine, il peut être notre frère ou notre sœur.
C'était l'ambassadeur du Maroc au Liban. Retour à la musique, toujours la musique libanaise, avec le groupe Mashrou Leila.
منخور الأرض بعصيان ليتو في الخمر من العين كل النسوان والرجال جايين لبسين الجلود وانتظار اللي بيموت وبيعود نسمع حكمات الأعنيب كل الحكم بالأعنيب رحنا جرحا
Kantara spécial Liban, enregistré dans le cadre de la conférence de la COPEAM qui regroupe tous les médias de services publics de Méditerranée. Leila Gandhi, journaliste marocaine et productrice de documentaires, a participé aux tables rondes organisées par la COPEAM sur notamment le journalisme constructif contre le discours de la haine. Cette femme libre a conquis l'assistance par ses prises de position pleines de courage, de fraîcheur, parfois teintées de provocation. Leila Gandhi.
Je ne suis jamais dans la provocation, je n'essaye jamais de choquer, mais quand on veut faire bouger les lignes, certainement, ça présuppose que parfois, on bouscule certaines personnes, voire on les dérange. Et de fait, certains des films documentaires qui ont été diffusés sur 2M ont fait du bruit, certaines sont remontées en question orale au Parlement, parce qu'on a dit que peut-être je tenais des propos subversifs qui essayaient d'encourager les femmes à ne pas porter le voile, par exemple, ou à s'émanciper un peu trop. Je ne sais pas, moi je n'aspire pas à être subversive. Maintenant, si dire personne n'a le droit d'imposer aux femmes de porter le voile est considéré comme étant une subversion, alors oui, je le suis. Mais je pense que, sincèrement, que être musulmane, je le suis, ne veut pas nécessairement dire qu'on soit obligé de porter le voile. Ma grand-mère était musulmane, pratiquante, croyante, fervente bien avant moi. Elle n'a jamais porté le voile, elle portait des jupes courtes et elle était très respectée. C'était dans il y a quelques décennies. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, on se crispe autour de questions vestimentaires, quitte parfois à en oublier l'âme et les valeurs et le fond.
J'ai juste une question à vous poser. Vous prenez l'exemple de Mantes-la-Jolie par rapport aux banlieues, au traitement de l'information. Mais je crois que cette vision qu'ont les médias nationaux, je dirais, de certaines régions et méditerranéennes et même des banlieues est souvent la même. Moi, je prends l'exemple de la Corse. Je suis corse. Lorsqu'un crime est commis sur le continent et qu'un homme tue un autre homme, c'est souvent un Corse qui a tué telle personne. Et quand c'est un Savoyard ou que c'est un Breton, on ne va pas dire que c'est un Breton et qu'un Savoyard. Donc on souffre un peu de la même chose.
C'est très drôle ce que vous me dites, parce que je suis allée à la rencontre de détenus dans une prison française qui revenaient de Syrie et qui m'ont posé précisément cette question-là. Dans ces termes-là, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire terroriste ?» Alors aujourd'hui, les terroristes, c'est les musulmans et les Corses. Ils m'ont dit ça. Mais tous les autres, les Américains, les machins, les trucs, on parle jamais d'eux dans des termes similaires. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce deux poids, deux mesures? Donc voilà, c'est juste un clin d'œil, je trouve ça drôle. Mais c'est vrai que...
Mais ça vient du même mécanisme.
Ça vient peut-être du même mécanisme, et je pense que là, c'est un peu le rôle de tout le monde d'essayer de sensibiliser, pas seulement les médias, la société civile, les hommes politiques aussi, qui, des fois, consciemment ou inconsciemment, contribuent à alimenter ces stéréotypes et ces amalgames. Et ça fait partie aussi de mes axes de travail. J'essaye d'aller à contre-courant, toujours à ma manière, à mon échelle, de ces stéréotypes-là. Et je dis souvent, puisque vous me parlez des femmes, moi je n'aime pas le discours inverse qui consiste à dire il faut tuer entre guillemets l'homme pour que la femme ait sa place. Non, je veux dire, ce féminisme-là, je pense, est obsolète. L'homme et la femme, si on veut qu'ils soient égaux, doivent travailler ensemble, et ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et par rapport à ce sujet de la femme, moi je dis souvent, je suis une femme, je suis marocaine, je suis française, méditerranéenne, maghrébine, arabe, musulmane, et je vais bien, je n'ai pas de problème, je suis libre de dire, de parler, de croire, de ne pas croire, je suis en plus une mère de famille, je suis une épouse aussi, et ça c'est quelque chose qui fait écho, notamment chez les jeunes femmes du sud de la Méditerranée, qui souvent sont sous le joug d'une société, d'une culture, d'une religion, d'un patriarcat, d'un machisme peut-être aussi ambiant, qui souvent les empêche de s'émanciper et d'aller au-devant de leurs projets.
Alors, vous êtes marocaine, non? Je vous sais avec Nadira Belroutout, qui est marocaine, et également avec notre collègue égyptienne, Dina Abdelmegid.
Randi, nos sociétés, que ce soit dans le nord ou dans le sud de la Méditerranée, elles sont plurielles. Et les communautés sont multiples. Donc, il y a un savoir, un vivre ensemble à respecter, et même une tolérance vis-à-vis des uns et des autres à promouvoir. Et comment, à ton avis, le journaliste doit tenir compte, en tenant compte de toute cette diversité, doit traiter son information tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de l'approche pour éviter toute opinion qui inciterait à la haine?
Alors aujourd'hui, on parle souvent de vivre ensemble, mais c'est vrai qu'il est mis à mal ce vivre ensemble aujourd'hui. Je veux dire, on vit plus les uns à côté des autres, voire des fois les dos à dos que ensemble. Alors c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la Méditerranée, des problèmes qui sont différents. Mais alors au nord de la Méditerranée, en France par exemple, parce que c'est quand même un des pays que je connais le mieux, en France, au nom du vivre ensemble et du respect de l'autre, on accepte un peu trop, je trouve, à mon goût, les différences, parce que ces différences-là communautarisent les Français et font qu'on vit chacun dans son quartier, chacun dans son mode de vie, et moi j'aimerais bien qu'on se réapproprie l'idée de d'appartenance à un même groupe avant d'exprimer les différences de chacun. Ça ne veut pas dire effacer les différences. Chacun est différent et chacun peut exprimer sa différence. Pour autant, je pense que les valeurs nationales, les valeurs du groupe doivent prévaloir. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait le socle, et c'est ce qui fait qu'un pays ne se délite pas, et c'est ce qui fait que les Français ne se retournent pas les uns contre les autres. Dans le sud de la Méditerranée, il y a un vivre ensemble qui est historique, qui est là depuis tout le temps, mais qui tend à s'effacer. Et moi, ça, je le déplore et je le dis souvent, comme l'a rappelé le ministre de la Culture, Monsieur Sbihi, lorsque je l'ai interrogé récemment. Le Maroc est pluriel. Le Maroc n'est pas que arabo-musulman. Le Maroc est juif, le Maroc est berbère, le Maroc est maghrébin, le Maroc est africain, le Maroc est arabe, le Maroc est musulman. Et ça, on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on pense qu'on dit souvent que le Maroc n'est que arabo-musulman. Et lorsqu'on dit le contraire, on dit « Mais non, tu as tort, attention, ne dis pas ça, c'est des bêtises. » Donc là aussi, il faut que dans le sud de la Méditerranée, dans les pays dits arabo-musulmans, on se réapproprie notre histoire, qui est beaucoup plus plurielle, beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, parce que d'abord c'est notre histoire, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, elle est le garant de la diversité, des libertés, de l'ouverture, de la tolérance et au bout de la chaîne, du vivre ensemble. Si on oublie ça, on se replie sur nous-mêmes. Et c'est beaucoup plus difficile de respecter, voire d'aimer la différence, et encore moins de vivre ensemble. Donc j'aimerais qu'on revienne vers ça et qu'on se réapproprie chacun notre histoire et qu'on la respecte.
Le mot que vous détestez le mieux, c'est l'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Mais ne voyez-vous pas qu'il ne faut pas à chaque fois se défendre que je suis musulmane, que je dis je suis musulmane. Alors tout le monde me prend comme terroriste. Alors je dois à chaque fois, c'est devenu une phobie, je dois me défendre. Je dois défendre tous les musulmans. Vous ne trouvez pas à chaque fois qu'il faut à chaque fois défendre l'islam, ça donne cette image-là qu'il y a vraiment un intégrisme dans l'islam.
Je ne sais pas s'il faut défendre l'islam, je pense qu'il faut simplement le représenter. Moi, j'ai un souci avec tous ces musulmans, alors on dit musulmans de France, ça aussi c'est une expression que j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression qu'en parlant de musulmans de France, on est musulman avant d'être français, alors qu'on est français, et puis après on est soit musulman, soit bouddhiste, soit chrétien, soit etc. Mais j'ai un souci avec cette écrasante majorité de silence de musulmans qui ne s'expriment pas et qui simplement se désolidarisent de ce qui se passe.
C'est ça, le fait de s'exprimer, c'est-à-dire se défendre. Et nous refusons
non,
ça.
Non, pas se défendre, simplement être visible.
Ils sont là, ils sont omniprésents, mais c'est les médias qui ne veulent pas les mettre en relief.
Non, ils ne veulent pas non plus se s'exprimer. Moi, je m'expose, je prends des risques, je prends des positions, je m'expose à la critique parce que j'estime que les intégristes n'ont pas le monopole de la parole musulmane et que le simple fait de ne pas s'exprimer fait qu'on est inexistant, on est invisible. Moi, souvent, je rencontre plein de musulmans qui sont dans différents domaines et qui excellent et qui sont super intéressants, mais qui quelque part se sentent insultés par le fait qu'on puisse les ramener à leur statut ou à leur condition de musulman. Je comprends tout à fait, parce qu'on n'est pas que musulman ou on n'est pas d'abord musulman, mais on l'est aussi. Et en ces temps de crise, où aujourd'hui l'islam est pointé du doigt et est produit des terroristes, je pense qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de donner à voir une autre image des musulmans, sans pour autant avoir à se défendre, simplement en étant nous-mêmes et en étant présents et en s'exprimant. De la même manière que, je dis souvent, il y va de la responsabilité de toute personne publique qui a un minimum de visibilité de s'exprimer pour défendre certaines valeurs, je trouve qu'il y va de la responsabilité de tout musulman de simplement montrer qu'il existe. Je ne dis pas défendre les musulmans, simplement montrer qu'il existe, parce que c'est à travers lui, à travers tous les autres, que l'ensemble de la population, l'ensemble des gens verront que ben, il y a beaucoup de musulmans qui sont normaux.
Ils sont là, mais personne ne les voit.
Personne ne les voit et ils ne veulent pas non plus être vus. Ils ne veulent pas non plus être vus et je le comprends. Je le comprends parce que finalement la religion est accessoire. Moi je suis d'abord Leïla, je suis d'abord une mère, je suis d'abord une épouse, je suis d'abord plein de choses avant d'être musulmane. Mais aujourd'hui c'est l'islam qui est en crise. Donc ce sont les musulmans qui sont pointés du doigt. Et je comprends, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement facile de détester les musulmans aujourd'hui. C'est tellement facile de ne pas les connaître, de ne pas les comprendre, de les détester, d'en avoir peur. C'est tellement facile avec ce contexte international. Je veux dire, les intégristes, eux, sont contents d'avoir la parole. Ils sont contents de la prendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est important que tous les autres qui existent et qui sont majoritaires puissent aussi être visibles, simplement pour contrebalancer l'autre parole musulmane.
Et tu penses, Leïla, que c'est un espace comme celui de la COPEAM, un congrès comme celui auquel on assiste aujourd'hui, puisse aider à porter ce message positif sur l'islam et sur le vivre ensemble entre les deux toutes les différentes communautés des deux rives de la Méditerranée?
En tout cas, c'est une de sa mission. Moi, je suis régulièrement invitée à ces conférences. J'étais dernièrement à Bruxelles avec l'ONU et l'Union européenne. Mais ces conférences sont intéressantes que si elles débouchent sur des actions concrètes. Sinon, voilà, on se retrouve entre convaincus et puis finalement rien ne bouge, et ça moi je le déplore. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis, il y a des mesures qui sont concrètes, qui peuvent être menées. Donner la parole à d'autres personnes, utilisez-moi, j'ai pas de problème. Relayer des programmes qui sont déjà diffusés dans certains pays et dupliquez-les dans d'autres pays, créer des collaborations, des partenariats, des synergies. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien de concret.
C'était la journaliste Leïla Ghandi. Nous restons au Liban avec ce numéro spécial de Kantara et un chanteur libanais maintenant, Wael Kfouri.
Ma asaba, ومنك قادر توقف ومجبور انه تفل انه تفل ما اصعب نهايه غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل ما اصعب تكون النهايه شايفها ومنك قادر توقفها ومشغول انه تفل انه تفل هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل هيدا حلم ليل وطويل حاجه تتامل لملي مجراحك عالهدى انت مش اول حدا
Kantara, spécial Liban.
Dans les couloirs de l'hôtel de Beyrouth où se déroulait la 24e conférence de la COPEAM, nous avons rencontré le plus corse des Libanais. Il s'agit du réalisateur De Gaulle Head. Il se réjouit que cette conférence sur le thème de la narration méditerranéenne ait lieu à Beyrouth. C'est tout un symbole pour lui.
Super symbolique, sachant que le Liban, il avait toujours une place assez importante dans la Méditerranée. Et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les migrations, les terrorismes, tout ce qui se passe, c'est vraiment un endroit où on peut dialoguer, discuter, parce qu'on a connu une guerre, et cette guerre nous a renforcés davantage pour avoir beaucoup plus de tolérance envers les Méditerranéens qui nous entourent, le peuple syrien, les Palestiniens et bien d'autres, avec tous les problèmes qui touchent ce bassin méditerranéen, l'Italie et bien d'autres. Je suis super vraiment content parce que moi je viens pas que pour la COPEAM, je viens également parce que j'ai un repérage sur lequel je travaille pour mon prochain film et donc je suis super heureux. Je viens de te voir comme ça dans les couloirs.
C'est magnifique.
Magnifique.
Voilà. Alors justement, les projets, c'est tourner ici au Liban un documentaire ou un documentaire fiction?
Alors, deux projets, un documentaire cinéma long métrage et une fiction. Donc je suis en train de préparer les deux. Voilà, en même temps.
On peut dévoiler les sujets ou c'est encore secret?
Non, on peut dévoiler les sujets. Le long métrage qu'on est en train de préparer, on peut parler peut-être de long métrage de la fiction. C'est une fiction qui s'appelle Good Morning. C'est une histoire entre deux vieilles personnes, deux retraités, un monsieur, un ancien général de l'armée libanaise qui est à la retraite et un autre médecin libanais également qui est à la retraite, qui sont très très amis et qui se retrouvent dans un café beyrouthain tous les jours à faire des mots croisés afin qu'ils n'oublient pas tout ce qui se passe dans le monde. Et au fait, ils ont peur d'avoir Alzheimer. Et ils revisitent le monde avec les mots croisés. Il se passe l'actualité, leurs souvenirs communs et le futur vraiment de ce qui va donner le terrorisme, la situation de l'immigration dans le bassin méditerranéen. Et voilà, c'est un thème vraiment très universel en parlant également de la France et du monde.
Toi, tu as vécu ce que tu as vécu au Liban et tu l'as fait dans un magnifique documentaire. Tu as parlé de ton enfance, de tes cicatrices et de tes drames. Et aujourd'hui, quelle vision as-tu du Liban? Est-ce que tu as vu une évolution malgré toujours ces voisins turbulents qui sont à côté, que ce soit Israël ou la Syrie? Comment vois-tu l'évolution de ce pays avec quasiment 2 millions d'émigrés et de réfugiés qui sont là aujourd'hui au Liban?
Voilà, c'est une super bonne question parce que j'en parle souvent avec mes collègues en France, avec des gens qui m'entourent. Mais je voudrais également dire un petit truc. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est le Liban, qu'est-ce que ça a été la guerre du Liban, et que vous avez compris quelque chose, ça veut dire qu'il vous a mal expliqué. C'est un pays hyper complexe, un pays plein de contradictions, mais un pays d'une énergie énorme, fantastique. On en a 2 millions de réfugiés syriens, sans compter les Palestiniens qui sont là depuis 1947. Et c'est un pays où on se dit, mais comment on arrive à gérer ça? On gère ça d'une manière incroyable. On a 200, 300 000 en Europe. C'est tout un, c'est un tremblement, c'est un séisme d'immigrants.
Il n'y a pas de camp ici.
Il n'y a pas de camp. Voilà, justement, le camp qu'on a, on a 2-3 camps dans le pays. Et ils sont là depuis 1947, ces Palestiniens qui sont dans des camps enfermés. Ils sont aujourd'hui 700 000 personnes qui n'ont pas la nationalité libanaise, parce que le Liban refuse de donner la nationalité à ces réfugiés parce qu'ils considèrent qu'ils ont une terre et qu'ils veulent pas rentrer dans le jeu d'Israël et tout ça. Mais c'est un pays, je n'arrive pas à l'exprimer. Et surtout quand on vit longtemps à l'extérieur et tout ça, quand on revient, on se dit, mais quelle énergie, mais quel pays, mais comment ça fonctionne? Et tout fonctionne, mais on sait pas comment. Voilà.
C'est un miracle.
C'est un miracle, voilà.
C'est le miracle libanais.
Oui, parce que c'est un miracle libanais, peut-être parce que c'est des pays qui ont vraiment quand même qui ont une histoire, comme tous les bassins méditerranéens, des millénaires d'histoire et tout ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Et la diaspora, quand même, dope le pays, quoi. C'est-à-dire, c'est 15 millions qui sont à l'extérieur, c'est énorme pour un tout petit pays. Voilà. Mais c'est fantastique.
Autre rencontre après De Gaulle Aid, celle de Shema Oubari de la fondation TIR. Elle était à la conférence pour faire la promotion d'un projet original, prouver que les Phéniciens auraient pu découvrir les Amériques bien avant Christophe Colomb. Shema Oubari nous présente son projet.
Ça s'intitule « L'expédition phénicienne à travers l'Atlantique ». Et en fait, c'est un groupe de personnes, d'amateurs, avec sur sa tête le capitaine Philip Beale de la Marine Royale Britannique, qui vont traverser l'océan Atlantique en septembre 2017 à bord d'une réplique exacte d'un navire phénicien. Pour prouver, enfin c'est de l'archéologie expérimentale, que les Phéniciens auraient pu découvrir les Amériques 2000 ans avant Christophe Colomb. Ça va partir de Gibraltar pour des causes de logistique, parce que ça prend beaucoup de temps de traverser la mer Méditerranée à bord d'un navire avec une seule voile. Donc il va partir justement à la sortie de la mer Méditerranée, de Gibraltar. Il va se diriger vers Cadix et Essaouira au Maroc, les îles Canaries, et ensuite il va se laisser transporter par le vent jusqu'aux côtes américaines.
Alors où est né ce projet?
Alors ce projet est né par le capitaine Philip Beale, qui est un passionné de la Phénicie, de la civilisation phénicienne, et qui a décidé en 2007 de construire une réplique exacte d'un bateau phénicien qu'il a fait en Syrie à Tartous. Ensuite, il a entrepris un voyage. Il a fait le pourtour du continent africain à bord de ce navire. D'ailleurs, le navire s'appelle Phénicia. Il a fait le contour du continent africain. Ça lui a pris 2 ans. Et justement, il s'est inspiré des écrits d'Hérodote, qui a dit que les Phéniciens ont été les premiers à faire ce grand voyage et à contourner le continent africain.
Alors vous, vous faites partie de quel organisme?
Alors nous sommes la Fondation TIR, nous sommes des partenaires sur cette expédition. Nous œuvrons dans la promotion et la sauvegarde de l'héritage phénicien en Méditerranée et dans le monde.
Vous êtes basé ici au Liban?
Oui, nous sommes basés à Beyrouth et à TIR également. Et nous sommes présents depuis environ 35 ans. Nous sommes également associés à l'UNESCO, nous sommes partie des programmes de l'UNESCO.
C'était Shema Oubari avec son projet. Elle représentait la fondation TIR. Écoutons maintenant la magnifique Carole Sama, chanteuse et actrice libanaise.
حتى بخيالي لا شو اتعصب يا عمري وضيع عندك عمري احلم انك قدر تكذب على حالي لا شو اتعصب يا عمري ضيع عندك عمري احلم انك قدر لك لو علي غرامك صور للغالب صدق بمطر عغيابك لحظة عقوابي والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي لا تصدق بمطر عغيابك لحظة عقوابي والبنت اللي قالت لك مرة حبك كذابي أنا ما اشتقت لك بالمرة.
Voilà, c'est la fin de ce Kantara spécial consacré au Liban. Kantara, on vous le rappelle, est une coproduction Radio Le Caire, Radio Extérieur d'Espagne, RCFM, chaîne Interrabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour écouter ou réécouter votre magazine. Toute l'équipe de Kantara vous dit au revoir et à la semaine prochaine.